Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Avec la permission du roi, Rafał Majka, vainqueur de la 11e étape du Tour de France, en solitaire, trop loin au classement général pour inquiéter Chris Froome et son maillot jaune, Cyril Guimard va nous expliquer tout ça dans un quart d'heure. Il y aura forcément une médaille encore pour la France au championnat du monde d'escrime à Moscou. Gauthier Grumier est en demi-finale à l'épée. On va vivre ça ensemble dans l'intégral Tour. La reprise approche pour les clubs de foot dans 15 jours en Ligue 2. On est parti, ça va être une découverte pour le Red Star. Patrice Haddad, le président du club de la banlieue parisienne, sera notre invité à 20h30. Une ancienne star du PSG à Évian-Thonon-Gaillard, Safet Susic sur le banc de l'ETG en Ligue 2, il sera notre invité, lui, à 20h45. Et puis vous mettez des Français sur un court de tennis en gazon, ils vous le transforment en terrain de pétanque. L'équipe de France de Coupe Davis est au Queens. Nicolas Mahut sera en ligne avec nous avant le quart de finale Grande-Bretagne-France. On va dérouler cet actu sport avec Martial Fernandez. Salut Martial.
Salut Virginie, bonsoir à tous.
Et c'est un Polonais qui gagne l'étape du Tour aujourd'hui.
Et on le connaît, c'est Rafał Majka qui avait gagné deux étapes l'année dernière. Majka qui gagne aujourd'hui cette 11e étape entre Pau et Cotteret. On va retrouver Christophe Cessieu à Cotteret. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Martial.
Alors Majka, le plus fort de l'échappée du jour aujourd'hui.
Effectivement, Rafał Majka qui est un habitué de ses victoires d'étape sur le Tour de France, puisque l'an dernier déjà, le Polonais, coéquipier d'Alberto Contador, avait remporté deux étapes du Tour de France et en plus revêtit le maillot de meilleur grimpeur du Tour de France, donc c'est un redoutable coureur. Aujourd'hui, il a vu que son leader, Alberto Contador, n'allait pas livrer bagarre. Il a donc pu profiter d'une échappée au long cours et il termine cette étape avec une minute d'avance sur son premier poursuivant, l'Irlandais Dan Martin. Le peloton maillot jaune lui est arrivé un peu plus tard, un peloton maillot jaune où il n'y a pas eu vraiment, véritablement de bagarre. Aujourd'hui, c'est vrai que la physionomie de l'étape ne laissait pas paraître une grosse bagarre, car le sommet du Tourmalet était assez loin de l'arrivée, donc pas d'attaque. On a cru un moment que Nibali allait pouvoir attaquer dans la descente, mais finalement le vainqueur sortant du Tour de France a une nouvelle fois peiné à l'arrivée. Il est arrivé avec quelques secondes de retard, il sort du top 10 du classement général, et puis d'autres ont souffert aujourd'hui sur les routes très ensoleillées et très chaudes de ce Tour de France. C'est le cas de Romain Bardet qui est arrivé avec un retard de 13 minutes 50 et surtout de Jean-Christophe Perrault et de Thibaut Pinot, deuxième et troisième du dernier tour, qui sont arrivés dans le groupe Eto à plus de 21 minutes du vainqueur de l'étape. Au classement général, plein de changements. Chris Froome reste évidemment en jaune. Van Garderen toujours deuxième et Quintana troisième. Tony Galopin et Warren Barguil se sont accrochés. Ils restent dans le top 10. Galopin est septième, Barguil neuvième. On espère évidemment beaucoup de l'étape de demain avec l'arrivée au plateau de Baye.
Merci Christophe. Le premier français aujourd'hui, c'est donc Thomas Voeckler, cinquième à 3.34 de Majka, le coureur de l'équipe Europcar qui était dans la grande échappée du jour et qui termine à sa place parce que d'après lui les autres étaient plus costauds.
C'est pas une mauvaise note maintenant. J'ai déjà connu la victoire sur le tour, c'est ce que je recherchais aujourd'hui. Mais bon, force est de constater que je suis tombé sur bien plus fort que moi et j'ai eu un mauvais passage dans le Tourmalet. Je connais très bien ce col, mais des fois ça peut être un inconvénient justement, tellement on le connaît quand on sait comment c'est dur vers la Mongie. Et puis bon, je me suis un peu énervé, j'ai perdu mon sang-froid, comment on me tapait dessus, on m'a arrosé partout, c'est vrai que je me suis énervé, j'ai gaspillé un peu d'efforts. Bon, je termine cinquième, c'est pas extraordinaire, mais ça fait un bon petit bilan quand même, les jambes sont correctes.
Thomas Voeckler avec Pierre-Yves Leroux, journée très compliquée pour l'équipe AG2R La Mondiale. Romain Bardet est à 13.50 de Majka, Villermoz à 15.54 et Perrault, le deuxième du tour l'an dernier, à 21 minutes. Comment expliquer ces défaillances, Alexis Villermoz?
On a souffert de la chaleur, l'école normalement c'est pas un souci, c'est notre terrain de jeu, donc se faire lâcher sur notre terrain de jeu, forcément c'est rude. On n'a pas trop d'explications, on a pourtant travaillé dur pour être en forme sur ce Tour de France, surtout en montagne. Donc voilà, après on a pas mal de pépins physiques aussi, la première semaine a été usante, mais bon, on va pas chercher d'excuses et... On va essayer de se battre jusqu'au bout pour relever la tête.
Et ce sera pas simple parce que demain c'est encore très chaud et du costaud. 12e étape, 195 km entre Lannemezan et le plateau de Baye, avec deux cols de première catégorie, puis la montée pour terminer hors catégorie vers le plateau de Baye. Puis petite correction, pas de cas de dopage sur le Tour. L'Italien Francesco Reda, qui a été contrôlé positif à l'EPO, n'est pas sur le Tour de France. Ça n'a rien à voir avec la grande boucle. C'était lors du championnat d'Italie au mois de juin dernier.
Précision importante, 18h08, dans moins de 10 minutes, Cyril Guimard sera avec nous et on va reparler de cette 11e étape du Tour de France. Maintenant, on va d'abord aller à Moscou pour les championnats du monde d'escrime.
RMC, France Olympique.
Deuxième jour, deuxième médaille pour les Français. Virginie, hier on a vu l'argent au sabre pour Cécilia Berlet. Aujourd'hui ce sera une médaille à l'épée pour Gauthier Grumet, mais on ne sait pas encore quelle médaille. Ce sera Rodolphe Massé, à Moscou pour RMC Sport. Bonsoir Rodolphe.
Bonsoir à tous.
Alors Rodolphe, Gauthier Grumet est dans le coup pour le titre.
Il est en demi-finale et c'est logique de le retrouver dans le dernier carré, Gauthier Grumet, parce qu'il est le numéro 1 mondial. Gauthier Grumet, ce sera sa troisième médaille mondiale. Il avait obtenu l'argent en 2010 à Paris, le bronze l'année dernière. Et à 31 ans, il est maître de son sujet. Oui, mais voilà, en quart de finale, il avait face à lui un certain client, le champion olympique en titre, le vénézuélien Limardo. Et après un assaut parfaitement mené, eh bien Limardo a égalisé à 8 touches partout à la fin du temps réglementaire des 9 minutes de combat. Autrement dit, il y a eu prolongation, mort subite, et c'est Gauthier Grumet qui a mis la touche de la victoire, non sans faire peur à son entraîneur Hugo Bry, qui s'est jeté sur lui à la fin du combat. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Hugo Bry, à Gauthier Grumet?
Je lui ai dit qu'il m'avait fait flipper et que j'aimais pas quand il faisait ça, mais que c'était tellement bon. Donc voilà, non, j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. Et sur une dernière touche, tout est possible, et alors qu'il avait fait tout le travail, je trouve que c'est prendre un danger, et j'ai vraiment flippé, ouais.
Il a flippé Hugo Bry, mais il va encore flipper en demi-finale parce que Grumet va affronter un adversaire inconnu ou presque, le Danois Jorgensen. C'est l'invité surprise de ce dernier carré, cette demi-finale qui aura lieu d'ici une trentaine de minutes maintenant.
Et on suivra ça bien sûr sur RMC. Puis les quatre filles engagées, elles, se sont arrêtées dès le deuxième tour. Demain, encore des chances de médailles fleuries individuelles, hommes et femmes.
RMC, le Mercato Show.
Le foot, le marché des transferts et peut-être bientôt une nouvelle arrivée au Paris Saint-Germain, Camille Gelpi.
Oui, selon la presse anglaise, le PSG proposerait désormais 8,5 millions d'euros à Tottenham pour l'achat de Benjamin Stambouli. Le milieu de terrain parti de Montpellier l'été dernier a disputé 12 rencontres cette saison avec les Spurs et 4 seulement en tant que titulaire. Mais Paris a besoin de combler le départ de Johan Cabaye. Ça bouge du côté de Nice. Le latéral gauche Jordan Amavi est tout proche de rejoindre Aston Villa en première ligue. Selon la presse anglaise, Nice aurait accepté une offre de 12,8 millions d'euros. Et puis Alexis Bossetti, lui, va découvrir la Ligue 2. L'attaquant formé à Nice est prêté au club de Tours. À 22 ans, il veut trouver du temps de jeu alors que l'arrivée de Valère Germain risquait de le cantonner un peu plus sur le banc de touche. À Lille, Hervé Renard recrute un nouveau joueur ivoirien, l'attaquant Junior Tallo, 22 ans. Le LOSC qui a également annoncé aujourd'hui l'arrivée du milieu de terrain Ibrahim Amadou. Et puis en première ligue, après Schweinsteiger, Dipay, Schneiderlin et Darmian, Van Gaal désire plus que tout s'offrir Sergio Ramos désormais. Selon AS, Manchester United a envoyé une offre de 45 millions d'euros au Real, qui en demande le double.
Merci Camille, et toutes les infos bien sûr Mercato sur le site rmcsport.fr.
Et on ne sait toujours pas qui jouera les simples pour l'équipe de France de Coupe Davis.
Patience Virginie, on aura la réponse demain à la mi-journée. Qui pour jouer les simples face à la Grande-Bretagne d'Andy Murray pour ce quart de finale de Coupe Davis sur le gazon du Queen's à Londres? Le capitaine Arnaud Clément a le choix entre Gasquet, Simon, Mahut et Tsonga. Peu importe qui sera choisi, c'est le collectif qui compte, nous dit Joe Wilfried Tsonga.
Pour gagner une rencontre, on a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les points. Chaque point qui sera pris sera un break dans ce week-end. En fonction de la composition, on aura tous des responsabilités dans cette équipe. Et voilà, on va donner le maximum de nous-mêmes, tous ensemble, et en espérant que ça se passe bien.
Joe Wilfried Tsonga avec Eric Salio, puis il y a un cinquième homme dans cette équipe, le remplaçant Pierre-Hugues Herbert, le petit nouveau. Et qui dit petit nouveau dit bizutage, et Pierre-Hugues Herbert y a eu droit.
Ils ont bien dégommé ma chambre hier soir. Faut dire que c'est des artistes. Vraiment, c'était beau. Il y avait des cintres accrochés avec une raquette de tennis, des lampes qui étaient n'importe où, le sommier qui était sur le balcon, et voilà.
Et ce que j'ai surtout adoré, c'est les petits mots qu'il y avait sur les miroirs.
Alors là, il y avait des « on t'aime », des cœurs dans tous les sens, « welcome in the team ». Enfin, en plus, ils parlent tous vachement bien anglais. Donc. Ah, il y avait insolent. « On t'aime, l'insolent ». Mais je sais pas qui l'a écrit, voilà, après. Mais j'ai mis une heure et demie à tout ranger. Derrière, j'ai fait 45 minutes de sieste tellement j'étais fatigué.
Voilà, le pauvre.
C'est ça, l'esprit de groupe, on va dire.
La réputation française dans les hôtels anglais, attention.
Je sais pas si ça va être pareil à Ting pour l'équipe de France de rugby qui est arrivée.
Attention, ils sont shelters aussi. Hein. Ils ont quitté Marcoussis histoire de changer d'air dans cette longue préparation pour la Coupe du Monde. Mais ils sont quand même là-bas pour travailler le physique pendant 10 jours. Et Laurent Depré ne les lâche pas, il est aussi à Ting pour RMC Sport. Bonsoir Laurent. Laurent, on va le retrouver. Normalement, il est à Ting. Laurent, tu nous entends?
Ah oui, je vous entends parfaitement.
Alors, Laurent, les Bleus viennent de prendre leur quartier à Ting. Alors, Nous, visiblement, t'entends pas, Laurent Després.
C'est l'air de la montagne.
Voilà. On le retrouvera peut-être un petit peu plus tard, ou en tout cas à 19h pour ces Bleus. Mais ils sont bien arrivés à Tignes, au boulot. Il y aura plein d'activités pour eux et pas que du rugby.
Alors, puisque Tignes, ça ne marche pas, on va essayer Rio. L'équipe de France de volley joue à Rio ce soir.
Et espérons qu'elle soit aussi au Brésil dans un an pour les Jeux, parce que les volleyeurs français n'étaient ni à Pékin en 2008, ni à Londres en 2012. Ce qui est bon signe, c'est que l'équipe de France débute ce soir le Final Six de la Ligue mondiale. Niveau que les Français n'avaient pas atteint depuis 8 ans. Autre signe favorable. Les Français restent sur 14 victoires consécutives en match officiel, mais le programme est copieux. Ce soir, c'est le Brésil, vice-champion du monde. Vendredi, les États-Unis, tenants du titre de la Ligue mondiale, très alléchant pour le libéro de l'équipe de France, Genia Grebennikov.
Ça va être très intéressant. Là, on va se frotter vraiment au top niveau du volley mondial. Donc voilà, ça va être, on va pouvoir se jauger grâce à ces matchs-là pour voir où on en est. Mais je pense que ça va le faire. On a vraiment encore cette motivation et on a envie de vraiment faire quelque chose là-bas parce que on performe bien en ce moment. Et puis voilà, on a envie de continuer notre série.
Voilà, Genia Grebennikov, qu'on avait joint juste avant qu'il parte du côté de Rio.
Il était sympa ton mono pendant la colonie de vacances. Bah oui, c'était Tony Parker, parce que oui, Tony Parker n'est pas que basketteur, il anime aussi son camp de vacances.
Et c'est comme ça que s'occupent les stars NBA pendant l'été. Ils font venir de jeunes joueurs sur un camp d'entraînement. Pour Tony, c'est à Villeurbanne cette semaine, avant que Tony aille rejoindre l'équipe de France lundi prochain pour la préparation de l'Eurobasket. Le joueur français a invité 300 basketteurs sur 7 jours et Marion Fournet a passé la journée avec les chanceux du jour.
Ils ont entre 11 et 17 ans et viennent des quatre coins du globe. Et après 3 jours d'entraînement, les basketteurs en herbe sont ravis, à l'image de Serena, 12 ans.
Je crois que c'est le meilleur des camps que j'ai jamais fait. C'est cool parce que ça traîne tous les jours, matin, après-midi, soir, on fait des matchs. En fait, on se croirait vraiment comme si on était en NBA.
Ce camp à la sauce NBA, c'est une idée qui trottait dans la tête de Tipeee depuis longtemps.
Quand j'étais petit, mon père il m'emmenait à tous les camps de basket en France. Et j'avais beaucoup appris. Et je me suis toujours dit que si un jour je réussis ma carrière, j'aimerais faire pareil et faire des camps et partager en fait mon expérience.
Aujourd'hui, le joueur des Spurs est venu rendre visite aux jeunes et même leur donner un petit cours de danse.
Vous faites deux steps, hein, vous remontez, et quand c'est dit 18 minutes, vous faites un tour sur vous-même. On peut bien faire ou pas? Vous en parlez un peu près ou pas?
Un moment inoubliable pour Cléo.
Être avec Tony Parker, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, c'est juste super en fait.
Le Tony Parker camp se poursuit jusqu'à samedi. À la fin, les 6 meilleurs joueurs du camp seront désignés et remporteront un voyage aux États-Unis avec Tony Parker.
Ça te donne envie, Virginie?
Bah c'est parti, je vais y aller tout de suite. Merci.
Il y a des places
Martial.
Encore.
Cotteret, 2 minutes d'arrêt, on revient tout de suite dans les Pyrénées. Cyril Guimard nous attend pour parler du Tour de France, et tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h16, c'est l'Intégral Tour, on est ensemble jusqu'à 21h et on va voir si Cyril Guimard a repris du poil de la bête après le coup de massue infligé par Chris Froome hier. Bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir Virginie.
Ça va mieux parce qu'hier, c'est vrai que c'était un petit coup de mou, hein, quand même.
Ah, il y avait un vrai coup de mou, oui. Bah, et puis bon, la roue tourne, comme on dit. Bon, et puis il faut continuer à vivre, c'est pas toujours évident, vous le savez bien.
Bah, évidemment.
Mais bon, quand on prend des coups, ça nous renforce. Donc on va être encore plus fort pour l'étape de demain.
Exactement. Et là, il y a un nouveau vainqueur, Rafał Majka, vainqueur. Ça change rien au général, du tout, hein, puisqu'il était très 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 loin. Mais bon, au moins c'est un beau moment.
Oui, et puis c'est quand même un coureur qui a déjà démontré ses qualités sur le Tour de France, puisque l'an dernier, il a quand même gagné le classement de la montagne, il a remporté 2 étapes, et en fait, il avait commencé d'ailleurs à se mettre en évidence à partir du moment où Contador, puisqu'il est de l'équipe de Contador, quand Contador était rentré à la maison suite à sa grosse chute, donc il était libéré de son rôle d'équipier. Et donc il s'était muté en leader. Et bien cette année, Contador n'est plus dans le coup pour, j'ai presque envie de dire, même presque pour un podium. Il est à plus de 4 minutes au classement général. Alors Rafał Majka, et bien Majka a sorti une rafale aujourd'hui, jeu de mots facile.
Évidemment.
Bien sûr, pour se glisser dans la bonne échappée et refaire tout simplement le même numéro que l'an dernier. D'une part, aller chercher des points pour le classement de la montagne, d'une part. Et puis pour s'imposer ici à Cotteret, j'ai presque envie de dire presque facilement, et rien ne dit qu'il n'ira pas en chercher une deuxième. Il confirme en tout cas ses très belles dispositions dans la haute montagne.
Mais s'il est parti devant, c'est parce que Chris Froome a bien voulu le laisser partir. Il s'en fichait un petit peu, quoi. Il était tellement loin qu'il s'est dit bon, ben vas-y, amuse-toi un peu là.
Oui, oui. Bah, c'est-à-dire que ça s'est fait à la pédale, l'échappée quand même, puisque pratiquement pendant 60 kilomètres, le peloton était en file indienne. C'était l'étape que beaucoup d'équipes avaient cochée, celles qui n'ont plus d'ambition au classement général, ou beaucoup moins d'ambition, qu'avaient coché, parce qu'on savait que la configuration de cette étape pouvait permettre à une échappée d'aller au bout, ou tout du moins qu'une partie des coureurs qui sont dans cette échappée peuvent aller au bout. Ça a été le cas. Il y avait donc un peu plus de 100 kilomètres avant l'attaque du col d'Aspin. Donc bien pendant ce qu'on reprochait d'ailleurs les autres étapes, où on laissait partir trois coureurs comme ça dès le départ, et on leur reprochait presque d'avoir dire eh bien le 26, le 32 et le 145, vous pouvez partir aujourd'hui. Non, là c'est parti après une grosse castagne, et d'un seul coup tout le monde en a eu marre, et il y a ce coup donc de sept coureurs qui est parti, un huitième qui est revenu après, Dan Martin. Ça lui aura coûté d'ailleurs, en ratant la bonne échappée, peut-être même la victoire, car il marchait à mon avis aussi bien que Rafał Majka, mais il fallait pas rater le bon coup. Il est parti en chasse patate, tant pis pour lui. Donc on savait qu'une échappée elle est au bout, elle est partie à la pédale, je le rappelle, et le meilleur de l'échappée, Majka, l'a emporté. Une étape traditionnelle, on savait que ça allait se passer comme ça.
Et dans cette échappée, il y avait un certain Vauclair qui lui a terminé cinquième de l'étape, premier français, qui était déçu de ne pas avoir remporté cette étape, mais quand même satisfait de sa performance du jour.
Oui, satisfait. C'est du discours. Il est pas content de faire 5. Ce qu'il voulait en partant dans le coup, c'était pas ça. Ou alors Vauclair a bien changé.
Mais il le dit. Mais après, il se dit bon, cinquième, c'est pas si mal. Bon, on garde le moral comme on peut, quoi.
Voilà, c'est-à-dire qu'on essaye. On essaye effectivement de se faire un petit peu d'autosatisfaction. J'ai pas gagné, j'ai fait 5, je chercherai de faire fois la prochaine mieux, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas dans le tempérament de Vauclair de partir dans un coup et de faire 5e. D'autant que la plupart du temps, quand il partait dans un coup, il se ratait pas, quoi. Bon, là, il y avait plus fort que lui. Le Tourmalet a été trop difficile, trop long, et puis il n'a peut-être plus tout à fait les jambes qu'il avait il y a 4 ou 5 ans.
Le temps passe, c'est comme ça. Et Nicolas veut nous parler au 32-16 de cette 11e étape du Tour de France. Bonsoir Nicolas.
Salut tout le monde.
Salut Nicolas.
Alors Nicolas, qu'est-ce que vous avez retenu de cette étape dans les Pyrénées?
Déjà, par rapport à l'étape d'hier et même celle d'aujourd'hui, il y a quand même énormément de frustration. Autant au niveau pour la lutte du maillot jaune que pour la présence des Français sur ce tour, on a Froome qui a fait exploser tout le monde hier, qui était quand même plus ou moins intouchable aujourd'hui encore, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il ait eu une seule fois le ressenti d'être en difficulté. Et puis voilà, quoi, on a l'impression qu'il a quand même tué tout le suspense pour le maillot jaune, et derrière, le nouveau Français. C'est honnêtement extrêmement frustrant, quoi. J'adore Vauclair, il est là, il est encore là, malgré qu'il soit plus très jeune aujourd'hui. Il n'empêche que ça reste cinquième, ça reste sixième. Tous les Français où on avait espoir qu'ils puissent aller faire quelque chose de sympa sur ce tour, ils ont tous craqué. Belle surprise pour Galopin, très bien pour parce qu'il s'est quand même accroché. Il a essayé de se rattraper et tout, et de rester dans la roue des meilleurs. Mais bon, voilà, quoi. On va galérer à avoir quelqu'un qui reste dans le top 10. Et puis, je sais pas quel est votre sentiment, mais moi,
Cyril, on va galérer à avoir quelqu'un dans le top 10.
on va galérer pour Tony Galopin. Là, il se surpasse. Il s'est surpassé dans ses deux premières étapes de montagne, surtout hier. Aujourd'hui, il a accompagné le groupe Froome, mais il n'y a pas eu de bataille dans la montée d'Aspin, il n'y a pas eu de bataille dans la montée du Tourmalet, et c'était prévisible. Le peloton montait pratiquement, on va dire, à la même vitesse que les hommes de tête. Donc à cette vitesse-là, Tony peut suivre. S'il y avait eu une grosse castagne, comme il y aura sûrement demain, au minimum dans la dernière ascension au plateau de Bail, compte tenu de son rapport poids-puissance, il aura quand même du mal à conserver une place dans le top 10. Mais Il est vraiment bien en ce moment. Alors, j'ai envie de dire, il se battra tant qu'il aura la possibilité d'y être. Après, eh ben, il changera sans doute, si ça n'était pas le cas, il changera d'objectif. Quant à Barguil, il a été merveilleux aujourd'hui. Hier, il s'est accroché comme il a pu. Il a perdu un peu de temps. Aujourd'hui, il s'est accroché. Il connaît bien le Tourmalet. Il a fait une ascension intelligente, il a bien géré, il n'a jamais paniqué, et puis surtout il a fait une descente à tombeau ouvert, descente, il l'a dit lui-même qu'il connaissait bien, mais il a tout pris au cordeau, il n'y a jamais eu une faute de trajectoire, jamais une faute de freinage, et ce qui lui a permis quand même de boucher pratiquement une minute dans la descente du Tourmalet, ce qui l'a replacé devant. Malheureusement, la dernière ascension, il a perdu 32 secondes. Espérons que demain, il s'en sorte bien. S'il s'en sort bien demain, donc ça veut dire que s'il n'est pas sorti du top 10 demain, je pense qu'il y restera dans les Alpes, parce qu'il a, j'ai presque envie de dire, entre guillemets, lui, un vrai tempérament. Il tombe, il se relève, et il se bat. Voilà, il est taillé dans le granit breton. Ça n'est pas un vain mot. c'est un vrai breton qui ne baisse pas les bras. Il est dans un coup de tempête là. C'est pas pour ça qu'il va pas continuer à pêcher.
Merci beaucoup Nicolas d'avoir appelé le 32-16. À très bientôt sur l'antenne d'RMC.
Avec plaisir.
Cyril, je voulais qu'on revienne sur Tony Galopin et notamment sur ce qui s'est passé à la fin avec le groupe Maillot Jaune, donc le groupe de Chris Froome qui a repris Tony
Galopin.
Ah,
vous avez regardé ça vous aussi, hein?
Mais oui, non mais en fait, j'écoutais Christophe Cessieux en même temps là, qui nous a fait tout un sketch comme quoi mais pourquoi Chris Froome avait besoin d'aller rechercher Tony Galopin comme s'il pouvait pas le laisser gagner un petit peu de points. Et je me dis, mais enfin, Chris Froome, après tout, enfin, il a le droit de vouloir gagner aussi. Et je vois aussi, on a aussi des messages sur le hashtag RMC Live sur Twitter, ou OM for Life qui nous dit par exemple qui lui cite Chris Froome qui dit Galopin est un concurrent, et ça le fait un peu rire. Et il dit bon, c'est un moyen de se foutre un peu de tout le monde, et notamment des Quintana et compagnie. Ouais.
Alors je vais dédouaner notre ami Christophe Cessieux, car je suis tout à fait d'accord avec son discours sur le comportement de l'équipe Sky vis-à-vis donc de Tony Galopin. Tony Galopin ne peut pas être un adversaire de Chris Froome. Or, quand il est sorti, ça roulait, on va dire, allez, pépère. Il y avait un petit tempo, mais tranquille. Un faux tempo, j'ai envie de dire. Et quand Galopin sort, bon, à la limite, il allait prendre 10 ou 15 secondes. J'ai plutôt l'impression que, le sentiment que Tony est sorti plus pour dire, bien écoutez, dans un final d'étape, je suis capable de me montrer.
Mais là, c'est aussi une preuve de respect de la part des Sky. Enfin, s'il laissait gagner quelqu'un, non?
Mais c'est même pas gagné. C'était une place de sixième ou de septième, je sais plus exactement. Je vais même vous le dire, parce que Chris Froome, il fait combien? Parce que c'est quand même lui qui fait le premier de ce groupe-là. Eh bien, Chris Froome, il fait neuvième. Bon, alors il y a un moment où...
Oui, mais
faut...
c'est aussi ça, être un champion, ne rien lâcher.
Non. Alors, ne rien lâcher...
Ah, j'ai rien compris.
Mais non, attendez. Ne rien lâcher sur... allez. Ne rien lâcher sur Quintana, je veux bien. Sur Van Garderen, d'accord. Sur le Valverde ou Contador, je veux bien. Mais pas sur Tony Galopin.
Donc il se fout de nous, quoi. Il se fout de nous, Chris Froome, là.
Impérialisme anglais.
Eh ben voilà.
C'est nous les patrons, c'est nous qui décidons qui part ou qui ne part pas. Voilà. Mais ils ont quand même laissé partir Valverde, par exemple. Ils ont laissé partir Bokeh Mollema. Mais comme par hasard, pas Tony Galopin.
Eh ben voilà, on en reparlera en espérant que Tony Galopin, ça lui réussira mieux dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Cyril Guimard. On te retrouve à 19h pour continuer à parler du Tour, de la victoire.
Oui, the pleasure. Tiens, je me mets à parler anglais.
Ça c'est les Sky, c'est sûr. Hein, c'est,
ah oui,
ça, c'est
déteint.
Eux
non,
qui
non,
décident.
Non, faut me s'il vous plaît, préservez-moi de cela.
Oh, on n'y est pas vraiment tout à fait encore. Cyril, à tout à l'heure. On rappelle que Rafał Majka a remporté cette 11e étape. Et que Chris Froome est toujours en jaune. Dans un instant, nous, on ira à Londres. Tiens, décidément, on n'en sort pas. On va parler de la Coupe Davis avec Eric Salieu, avec Nicolas Mahut également, qui s'entraîne aux Queens.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h30, l'intégral tour c'est jusqu'à 21h sur RMC. Bienvenue au très chic Queen's Club dans le non moins chic quartier de West Kensington à Londres. C'est là que parade Eric Salio, tout de tweed vêtu. Salut Eric.
Salut Virginie.
Alors tu restes là, tu ne bouges pas. Nicolas Mahut est avec nous en ligne. On te retrouve juste après. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Vous êtes heureux là, vous, le Queen's, le gazon, la Coupe Davis, tout va bien.
Voilà, pour l'instant, tout est réuni, oui. On a passé une super semaine avec les gars, on s'est bien préparé. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ouais, la pression monte un peu d'un cran, mais effectivement, les conditions sont réunies pour que ce soit une belle fête.
Alors, est-ce que vous avez déjà quelques indications? Est-ce que vous savez si vous allez le jouer, ce double?
On a quelques indications, mais on a pour consigne de pas les dévoiler. Effectivement, nous, le groupe, on a eu des discussions avec le capitaine. On doit encore se réunir ce soir. Et puis, là, on fera l'équipe demain. Mais on est en train de peaufiner les derniers détails et on a quelques indications.
Parce que c'est vrai qu'on se dit jouer contre la Grande-Bretagne chez elle, au Queen's, donc c'est pas forcément évident de battre Andy Murray. Donc on se dit qu'est-ce qu'on fait? On mise tout sur le reste? Le double peut avoir encore un peu plus d'importance que d'habitude?
Bah, le double, de toute manière, sur chaque rencontre, il est primordial et déterminant. Alors la facilité serait bien effectivement Andy Murray va gagner ses deux matchs et les Français vont battre le World, mais ce serait justement un petit peu trop simple à mon avis. Je crois que ça va être difficile de battre Murray, mais c'est aussi très très difficile de battre Joe en simple, Richard ou Gilles de la même manière. Donc je pense que ce serait réducteur de penser que tout va se résumer sur le double, même si c'est de toute manière un point déterminant.
Mais quand je regarde cette équipe de France là, avec vous, avec Richard Gasquet, avec Gilles Simon et Joe Wilfried Tsonga, je me dis mais le gazon c'est vraiment leur meilleure surface en fait, en équipe.
Oui, c'est peut-être la meilleure surface. C'est la meilleure surface pour les Anglais certainement, et puis pour les Français, je pense que c'est une surface. Le groupe est tellement riche que vous voyez, l'an dernier, les Français ont gagné la demi-finale sur terre battue. Je crois qu'on peut jouer sur toutes les surfaces. Les Anglais l'ont choisi pour Andy Murray, mais aussi beaucoup, je pense, pour Ward.
Bien sûr, mais bon, c'est vrai que sur terre battue, l'équipe de France, elle est limite moins forte que sur gazon. Hein. Là, vu en plus les récents résultats à Wimbledon, on se dit c'est une très bonne chance de jouer au Queen's.
Bah, c'est une bonne chance. C'est vrai qu'on a eu de bons résultats, mais c'est pas nouveau. Joe avait déjà fait des demi-finales à Wimbledon. Richard c'est sa deuxième. Gilles, oui, donc effectivement c'est une bonne surface, mais on n'est pas étonné. Au même titre que sur terre battue, Joe a fait demi à Roland, Gaël l'a déjà fait. Je crois vraiment qu'il y a une vraie homogénéité dans ce groupe et que tous les joueurs sont performants sur toutes les surfaces.
Vous êtes fort à la pétanque, Nicolas?
Pourquoi cette question? Mais
parce que je crois que vous avez fait des sortes de jeux de pétanque sur le cours du Queen's. Ah, hein.
C'est exact. Et c'est le staff médical qui a perdu. Hein. Je me suis toujours trouvé dans le milieu. J'ai pas gagné, mais j'ai pas perdu. Mais vous avez les bonnes informations. Je crois que vous avez un journaliste sur place
qui s'appelle Eric Salio.
Eric Salio est présent pour recueillir les informations.
Voilà, il nous envoie des photos. Enfin,
et primordial en plus, hein, parce que la pétanque, c'est vrai que c'est déterminant, mais il est là.
il est lui aussi, il est en Coupe Davis. Nicolas Mahut, à part Andy Murray, parce que pour le grand public en France, la Grande-Bretagne, c'est Andy Murray. Les autres, il ne faut pas qu'on les oublie. Hein.
Son frère, Jamie Murray, vient de faire finale à Wimbledon en double. Donc voilà, pour ceux qui suivent bien le tennis, ils savent que c'est une rencontre qui va être très difficile, que ce soit en simple. Bien sûr, Andy Murray, alors le numéro 2 est peut-être un peu moins connu, James Ward, mais il a battu déjà Isner en Coupe Davis, il a battu Sam Querrey aussi en Coupe Davis, donc on sait que c'est un client. Et puis en double, je viens de vous le dire, il y a le frère d'Andy qui sort d'une finale de Wimbledon, donc avec beaucoup de confiance.
Et vous les croisez à l'entraînement, les Britanniques, là?
Pour l'instant, oui, on les a simplement croisés. Chacun a essayé de se préparer du mieux possible, chaque équipe de son côté. Il n'y a pas tellement d'échanges et chacun est concentré sur ce qu'il a à faire.
Et on attend donc le tirage au sort qui sera fait demain pour ce quart de finale de Coupe Davis entre la Grande-Bretagne et la France. Merci beaucoup, Nicolas Mahut.
Merci beaucoup. Merci.
Eric, tu es toujours là?
Oui, oui, oui.
Bon, je t'ai balancé hein, sur la pétanque.
Ben oui, j'ai ben vu, oui. Ouais.
Ah ben...
Non, mais c'est une discipline que beaucoup de joueurs font. Le clan Djokovic le fait aussi avant à Roland-Garros. Enfin, c'est la mode, c'est la mode. Les Tchèques l'avaient fait aussi. Alors, le but du jeu, c'est vous vous mettez au filet et vous lancez votre balle de tennis. Il faut qu'elle atterrisse sur la ligne de front de court. Si vous dépassez la ligne de front de court, vous êtes puni, vous faites des pompes.
Alors, bon, on est bien d'accord, c'est avec des balles de tennis. Hein. Ils n'ont pas défoncé
oui,
le court,
sûr.
Là, avant de commencer.
Ah non, il y a un jardinier ici, le jardinier en chef, il est extrêmement sévère, il s'est un peu fâché avec les Français là, il y a quelques minutes, donc faut surtout pas abîmer son gazon.
Ah ben, ils sont connus pour ça, hein, les
oui.
Anglais. Donc, bon, tu n'as pas fait que de regarder la pétanque. Comment ça se passe l'entraînement pour les Français là? Ils te semblent en forme?
Oui, ils semblent en forme, mais si tu veux des infos sur la compo, je suis sec. C'est peut-être la première fois de ma carrière.
Ah, tu sais rien du tout.
N'arrive... Ah non.
Ah ben, merci beaucoup.
Je ne sais rien parce qu'ils ont. Arnaud Clément a plein de possibilités. On est sûr d'une chose, et je crois qu'on en avait parlé il y a 2-3 jours, si Gilles Simon est choisi pour jouer en simple vendredi, il jouera James Ward. Si Richard Gasquet est sélectionné vendredi, il jouera Andy Murray. Mais tout dépend de ce qu'on fait de Joe Tsonga. Joe Tsonga, on l'a dit, a priori, c'est lui qui va jouer le double avec Nicolas Mahut. Ils se sont vraiment beaucoup préparés, avec beaucoup de sérieux, et ça change un peu de la mauvaise préparation avant la finale de la Coupe Davis face aux Suisses. Là, vraiment... Ils ont
et ça, c'est vraiment l'équipe qui se dégage pour le double. Hein.
C'est le choix d'Arnaud Clément.
D'accord.
Voilà, c'est mon sentiment. Il estime que ce sont les. Ils ont déjà joué un petit peu ensemble, un tout petit peu. On va pas dire de mensonges. Mais pour lui, c'est la paire qui doit rapporter ce point. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Joe? Si on le met vendredi, on risque de.
Il va être émoussé pour samedi.
Voilà. Donc, c'est un choix. En plus, on peut très bien le mettre en numéro 2. Auquel cas il jouerait Andy Murray, est-ce une bonne idée? Pas sûr. Donc voilà, c'est tout le dilemme. Alors ils vont se réunir.
Et puis
Gilles
Simon n'a pas des stats extraordinaires en Coupe Davis.
Non, mais il sort d'un bon quart de finale à Wimbledon. Il avait remporté un match aussi de Coupe Davis très important en Allemagne sur une surface extrêmement rapide et ça pour le moral c'est très bon. Donc il y a dîner officiel ce soir en costume cravate. Avant il y aura réunion de groupe. Et là, Arnaud Clément donc, va décliner sa stratégie à tous ses boys. Et nous, on sera informés en milieu d'après-midi vers 17h, heure française, puisque exceptionnellement, le tirage au sort n'a pas lieu à midi. Il aura lieu dans les locaux de la BNP de Londres à 16h, heure locale. Et là, on sera fixé. Et quoi qu'il arrive, ce sera un coup de poker, gagnant ou perdant.
Eh ben on va attendre jusque-là. On va te retrouver demain, bien sûr, dans l'intégrale Tour, Eric, pour parler de ce tirage au sort. Et puis, bien sûr, vendredi, samedi, dimanche, les matchs en direct sur l'antenne d'RMC. Avec toi, en direct du Queens. À très bientôt. On quitte une capitale européenne pour une autre, hein, Londres, pour Moscou. Et les championnats du monde d'escrime avec une demi-finale à l'épée pour Gauthier Grumier dans un instant qu'on va vivre en direct avec Rodolphe Massé. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h41, l'Intégral Tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC et la place rouge n'est pas vide puisque Rodolphe Massé est à Moscou.
RMC, France Olympique.
Salut Rodolphe.
Salut Virginie.
Bah oui, je suis désolée, hein, je t'ai obligée. Ce sont les championnats du monde d'escrime. Tu as avec toi un invité champion du monde en titre à l'épée pour quelques minutes encore, Ulrich Robéry, bonsoir.
Bonsoir, oui, encore pour quelques minutes, en espérant que ce soit Gauthier qui me succède.
Ben, on espère bien, nous quand ouais. même. Hein. C'est une demi-finale qui se profile là pour Gauthier Grumier. Donc il est sûr d'avoir une médaille déjà, hein, Rodolphe. Ça, c'est
ça. C'est déjà assuré pour l'équipe de France après l'argent de Cécilia Berder hier au sabre féminin. Eh bien, une médaille va tomber aujourd'hui à l'épée masculine individuelle. C'est pas une surprise, Virginie. S'il y a une épreuve où on pouvait vraiment espérer une médaille, c'est à l'épée homme. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure, quelques statistiques. Mais là, Ulrich, la demi-finale va débuter. Gauthier Grumier vient de remettre son masque. Le matériel technique de son adversaire a été vérifié. C'est le Danois Jorgensen. Alors, j'ai cherché des stats. Ah non, c'est l'invité surprise, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a 24 ans, j'ai cherché des résultats. Il n'y en a aucun. Ulrich, tu me confirmes, Ulrich Robéry, Jorgensen, vous ne le connaissez pas.
On le connaît pas, on va dire, sur les pistes. Non, sur les fiches de scrim.
C'est-à-dire?
Non, non, mais on le connaît. On le connaît, on le croise, on, voilà, on.
Vous faites la fête ensemble, mais c'est tout, quoi.
Voilà, voilà, exactement, mais voilà, sur les.
Et c'est parti.
Non, mais non, il est très sympathique, en plus, il parle français, il vit en France, donc.
Donc c'est un droitier, lui, ouais. Hein. Alors que Gauthier Grumier est gaucher, cette demi-finale vient de débuter. Alors, on va vous faire vivre, évidemment, cette demi-finale. La première touche, ouais. Elle est pour Jorgensen, là.
Ouais.
Qui a contré Gauthier là, il l'a touché ouais.
Gauthier
ou à la main.
Qui rentre un peu timidement dans le match. Je pense que voilà, il était un petit peu en train de l'observer. Il s'avance un petit peu trop dans sa préparation et se fait contrer à la main.
Gauthier Grumier n'aime pas trop comme ça découvrir un adversaire sur la piste. C'est toujours difficile parce que Gauthier Grumier, il est numéro un mondial. Il part grand favori de ce match, de cette demi-finale. C'est toujours compliqué d'aborder une demi-finale mondiale dans la peau d'un grand favori face à quelqu'un qu'on ne connaît pas, Ulrich.
Oui et non, hein. Quand on est en demi-finale, je pense que c'est qu'on est bien, hein. Donc faut pas se poser de questions. Le plus important, c'est la préparation, on va dire l'échauffement, bien rentrer dans le match. Après, quel que soit l'adversaire, qu'il soit inconnu ou que ça soit un favori, c'est pas vraiment important.
Mais justement, juste avant la demi-finale, quand il a connu son adversaire, est-ce qu'il a vite fait regarder comment ça se passait pour lui? Est-ce qu'il a regardé ses habitudes ou pas du tout? Il s'est lancé en se faisant confiance à lui-même d'abord.
Non, il a pas regardé l'autre tireur. Je pense qu'il est bien. Il sait ce qu'il veut faire sur la piste, donc. Il se pose pas de questions par rapport à son adversaire.
Et deux touches à une pour Gauthier Grumier. Après une touche au corps, eh bien là, il a réussi une deuxième touche. Deux touches à une après une minute dans cette demi-finale en faveur du Français numéro un mondial. Alors, l'année dernière, à Kazan, aux Mondiaux 2014, Ulrich, tu avais battu Gauthier en demi-finale.
Ouais, c'était un match franco-français, j'avais battu. Je me souviens plus exactement du score.
15-11, si mes fiches sont bonnes.
Voilà, et... Ouais, voilà, ça remonte à un an, hein. Maintenant, la page est tournée.
Et troisième touche pour Gauthier Grumier, au pied, ce coup-ci. Là, il y a toute la panoplie, hein. On le sait, Gauthier, ouais. C'est un escrimeur pur, très complet, Ulrich.
Ouais.
Et là, il le montre. 3-2 maintenant.
3-2. C'est vrai qu'Jorgensen, il est un peu difficile à suivre dans ses déplacements. Il a engrangé beaucoup de confiance dans la journée. Il se pose pas trop de questions. Puis là, il a peine escrime vraiment académique. Mais voilà, ça reste un match à la portée de Gauthier.
Il fait beaucoup de mouvements, ce Danois, avec voilà. Sa main gauche, notamment la main qui ne tient pas l'épée. On la voit énormément mobile, alors que chez Gauthier, le bras droit qui ne tient pas l'épée, lui ne bouge pas, par exemple. C'est ça rappelle un Américain qui tirait aussi un peu comme ça, avec un bras en l'air.
Ouais, mais il bouge encore plus. Il est un peu plus mobile, heureusement d'ailleurs pour les spectateurs. Et c'est vrai que dans ses déplacements, on voit il se déplace en bondissant, en faisant des bonds, bon avant, bon arrière. C'est pas très académique. Et puis bon, il y a rien à dire, hein, puisque aujourd'hui ça marche, donc il continue.
On l'attendait pas là, ouais. Effectivement. Trois touches partout, Virginie, ouais. Dans cette demi-finale. Il reste 1 minute et 20 secondes avant la première pause. On va rappeler les règles de l'escrime, de l'épée,
je pense que c'est
notamment.
Pas mal.
C'est pas mal. Alors, il y a 3 périodes de 3 minutes. Ça fait donc 9 minutes d'assaut au final.
Jusque-là,
celui qui
suis...
est en tête à l'issue des 9 minutes a gagné. Mais sinon, ça peut s'arrêter avant, dès qu'il y a un des deux tireurs qui atteint les 15 touches. Est-ce que tu as suivi?
Ah bah oui, quand même. Quand même.
Non, voilà. Et
3 fois 3 minutes, mais si quelqu'un est à 15 en premier, on arrête largement avant, ou peut-être au bout de 2 minutes. Ça peut exister.
Et la spécificité, ça peut exister.
Ça existe.
La spécificité de l'épée, c'est qu'il y a les doubles touches. C'est-à-dire que les deux peuvent toucher en même temps, ça va compter. Contrairement aux autres armes, le sabre et le fleuret, qui sont des armes dites de convention, où il y a la priorité à l'attaque. Enfin bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, l'épée est la seule des trois armes où il y a une double touche. Si jamais les deux tireurs sont à égalité à la fin des 9 minutes, eh bien là, il y a ce que l'on appelle la prolongation à la mort subite, mais on n'en est pas là, puisque pour le moment, Gauthier Grumier mène 4 touches à 3. Et là, justement, il y a une double touche, 5 touches à 4 désormais pour le Français Gauthier Grumier. Il est bien dans son escrime, là, pour le moment, Ulrich.
Pour l'instant, il est encore quand même très prudent. Il se méfie. Dans mon goût, il est un peu trop prudent, un peu trop défensif. Je pense qu'il peut vraiment...
C'est quoi, c'est le stress ?
Non, c'est un peu sa nature. Dans un premier temps, il préfère un peu maîtriser son engagement. Mais je pense que sur un adversaire comme ça, qui bouge beaucoup, qui met beaucoup d'incertitudes, il faudrait mieux le pousser un peu plus dans son terrain.
Et la pause arrive. Oui, vas-y, Virginie. Voilà.
Non, non, mais je voulais savoir si dans le clan français, on était très bruyant, on l'encourageait justement à aller plus de l'avant, ou est-ce que c'est très calme, très feutré comme ambiance là?
C'est plutôt calme.
Ouais,
c'est plutôt calme. Même Hugo Bry, l'entraîneur des épéistes,
messieurs, on le voit. Parce que tout à l'heure, à la fin du quart de finale,
il n'était pas calme.
Il n'était pas calme du tout, quoi. Donc là, non, c'est beaucoup plus calme.
Pour le moment, c'est beaucoup plus calme. Hugo Bry, il est en bout de piste, les bras croisés. Il regarde son tireur, Gauthier Grumier, pour les dernières secondes de cette première période. Et là, c'est le Danois Jorgensen qui vient de contrer Gauthier Grumier et qui va peut-être virer en tête à cette première pause. 6 touches à 5 pour Jorgensen dans cette demi-finale de l'épée individuelle ici aux Mondiaux d'escrime à Moscou. Et voilà, les deux tireurs qui vont pas disputer les dernières secondes. Ça va être la pause, ça va être le moment où Gauthier Grumier, il va aller prendre des conseils auprès d'Hugo Bry. 6 touches à 5 pour le Danois Jorgensen. Alors Virginie, il y a forcément une question qui te brûle les lèvres. Comment ça se fait qu'Ulrich Ruberi, champion du monde en titre,
n'est pas aligné sur la piste aujourd'hui? Oui, je comprends pas.
C'est pas qu'il a été éliminé tôt, c'est juste qu'il y a tellement de densité au sein de l'épée française que c'est compliqué de se qualifier pour un grand championnat, Ulrich.
Bah en fait, on va dire que tous les ans, les compteurs sont remis à zéro. On a 6 épreuves sélectives dans l'année.
Et vous faites des sortes de primaires.
Voilà, en gros, il y a 4 Français qui ont gagné une épreuve sélective. Gauthier Grumier, Alexandre Vlasic, Daniel Girand.
Et Ronan Gustin.
Voilà, exactement, Ronan Gustin. Donc, ils ont été sélectionnés par la commission pour participer au championnat du monde. Et bon, comme le coach, il m'aime bien, il m'a dit, bon, allez, Ulrich, on t'emmène pour l'équipe.
Oui, parce que Ulrich Ruberi disputera l'épreuve par équipe samedi, hein. Parce que c'est un pilier de l'épreuve, parce que les Français sont aussi champions du monde, champions d'Europe en titre par équipe, donc tu disputeras. Mais voilà. Comment ils réagissent les étrangers, les autres nations? Parce que ça doit leur paraître curieux qu'un champion du monde individuel ne dispute pas la compétition l'année suivante.
Bah, en gros, j'ai passé toute ma journée à expliquer que je tirais pas aujourd'hui. Bon, tout le monde est un peu étonné, mais voilà, c'est le système français. C'est
parce que dans les autres nations, pour les autres nations, ça se passe pas de la même manière, ou tout simplement ils ont moins de très bons tireurs.
Bah, il y a les deux. Ils ont sûrement aussi moins de bons tireurs. Et c'est vrai que dans les autres nations, on va dire en champion du monde, je pense pas qu'ils se posent la question de le sélectionner ou pas pour l'année suivante.
De toute façon, il va défendre son titre.
Exactement. Donc c'est vrai que eux, ça les surprend un peu. Mais on a notre propre mode de sélection.
Vous êtes sympa, vous l'avez pas trop mauvaise, là?
Non, mais après, les règles du jeu sont claires dès le début de la saison, et puis il faut les accepter. Et de mon côté, je sais que l'année prochaine, il va falloir que je me remette au boulot pour atteindre mes objectifs.
La deuxième période de 3 minutes de cette demi-finale vient de débuter et Gauthier Grumier vient d'égaliser à 6 touches partout face au Danois Jorgensen. Une double touche à présent, 7 touches partout donc. Virginie, il y a un chiffre à donner à nos auditeurs pour expliquer ce que représente l'épée française aujourd'hui chez les hommes au niveau planétaire. Si on regarde toutes les épreuves qui comptent depuis le début de cette saison 2014-2015, toutes les épreuves individuelles, il y en a eu 11, si on compte les Grands Prix, les Grands Chelems, les Championnats d'Europe, les Universiades, les Jeux Européens, 11 épreuves individuelles, 9 victoires françaises, avec 7 vainqueurs différents. Si on compte toutes les épreuves en comptant individuelles et par équipe, il y a eu 18 compétitions majeures cette année, 23 médailles pour les épéistes français, dont 13 en or. Voilà qui illustre pourquoi Ulrich Ruberi aujourd'hui n'est pas là.
L'équipe de France d'épée, c'est un peu le Chris Froome dans les Pyrénées, quoi.
C'est un peu
c'est
ça, pas,
c'est
les soupçons en moins.
Le Barça, là, pour l'instant.
Le Barça, c'est mieux comme comparaison, le Barça, d'accord, très bien. Bon, on va faire comme ça, alors. Et donc, la Messi est sur le banc, pour l'instant.
Exactement. Non. Et pour Gauthier Grumier, attention, parce que le Français, il a une touche de retard, plus maintenant, parce que là, il vient de faire une fente, c'est comme ça qu'on va appeler,
une flèche,
il s'est lancé.
Voilà, une flèche.
Avec son bras gauche en avant,
et
il a touché.
Sur la préparation d'action de son adversaire. Il a assez bien, il essaie de reprendre un peu les choses en main parce qu'il a, il a un peu de mal à maîtriser le tempo du match. Donc voilà, il faut, on arrive vraiment sur la dernière partie du match.
Voilà, et là celle-ci,
exactement,
elle est belle.
La même, exactement.
10 à 9 pour Gauthier Grumier. Il a eu juste le bon petit temps, il a laissé un tout petit peu partir son adversaire pour
exactement,
le contrer.
Dans la préparation. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il lâche ses actions pour reprendre la main. Il faut pas qu'il soit trop dans l'observation.
Mais là, on arrive dans le money time. Là, ça peut aller très vite. Exactement. Maintenant et pas du tout aller jusqu'au bout des 3 fois 3 minutes. Non. Là, on est d'accord.
On te confirme, Virginie, parce que là, il reste encore 1 minute et 45 secondes dans la deuxième des 3 périodes de 3 minutes. Et Gauthier Grumier n'est plus qu'à 5 touches de la victoire, ouais. Même si se fait contrer, on va dire ça comme ça, parce que c'est Gauthier Grumier qui a lancé.
Parade de prime, en fait, la parade, il flèche de Gauthier, le Danois lui fait une parade riposte, tout simplement. Donc, c'est vrai que là, il s'est un peu précipité. Mais c'est assez surprenant. Mais attendant un petit peu pour voir comment ça va s'enchaîner.
10 touches partout dans cette demi-finale. Et
donc là, c'est tendu. Hein.
Ouais, là, c'est tendu.
Un peu, parce que faut être honnête, on s'attendait pas à ce que le Danois résiste aussi bien.
Hein. Non, pas du tout.
Mais en fait, on s'attendait pas à ce qu'il soit là. Ouais, c'est nous qui l'avons entraîné, quoi, en gros.
Mais oui, mais voilà, on se pensait qu'il allait être sympa.
11 touches à 10 pour Gauthier Grumier, là, qui vient de réussir à toucher au bras son adversaire. Allez, encore 4 touches pour Gauthier Grumier pour une place en finale. Il reste 1 minute et 32 secondes dans cette deuxième des 3 périodes de 3 minutes de cette demi-finale. Une touche d'avance pour Gauthier.
Rodolphe, tu parlais de la domination française en épée, mais moi, du coup, je m'attendais à en voir plus d'un en demi-finale, un Français.
Alors, faut être honnête, Hugo Bry nous avait dit aussi, l'entraîneur des épéistes français avant cette compétition, que lui aussi espérait en voir plus d'un en demi-finale. Alors déjà hier, lors des éliminatoires, Alexandre Blazic n'a pas franchi le cut. Il n'a pas réussi à se qualifier pour le tableau principal. Ça, c'est une vraie contre-performance. Aujourd'hui, Daniel Gérant, il a perdu Daniel Gérant contre un adversaire qui était largement à sa portée dès le deuxième tour. Là aussi, il s'agit d'une contre-performance. En revanche, pour le troisième, Ronan Gustin, lui, il perd en huitième de finale contre le champion olympique en titre, le vénézuélien Limardo, qui ensuite a donné beaucoup de fil à retordre à Gauthier Grumier en quart de finale. Donc Ronan Gustin, il était à sa place en huitième de finale. Il fait un beau combat, un bel assaut. Il y a pas grand chose à dire sur Ronan Gustin, mais c'est vrai qu'il y a eu une petite déception. Après, cette déception, elle sera toute relative si Gauthier Grumier se part d'or ce soir.
Et puis si par équipe, Ulrich et ses amis gagnent également de la médaille d'or en équipe, hein.
Ça, non. Vous n'avez pas le choix, Ulrich, là.
Ah, on y va pour ça, de toute façon. Et puis, je pense qu'on a déjà gagné les championnats d'Europe. Si on gagne les championnats du monde, on aura fait le gros du boulot pour la qualif olympique. Donc,
C'est très bon ce qui se passe sur la piste, parce que là, Gauthier Grumier vient de prendre 2 touches d'avance, 12 à 10 pour le Français. 2 touches d'avance à l'épée, c'est un vrai avantage, parce qu'on sait qu'au sabre, une arme qui va très vite, il peut y avoir des retournements de situation. À l'épée, quand on a 2 touches d'avance, on peut un peu mieux gérer grâce à ces fameuses doubles touches, Ulrich.
Oui et non, parce que gérer, ça peut être dangereux, parce que le Danois, justement, il a été souvent mené en fin de match. Je crois qu'une ou deux fois, il a été mené 14-12, il revient. Donc, c'est vrai que 2 touches d'avance, c'est une vraie différence.
Mais là, ça fait 3 maintenant.
Exactement, 3 touches d'avance maintenant.
Et puis peut-être aussi,
Oui,
Virginie.
Pardon, ce que je me dis, c'est que peut-être qu'il a plus d'expérience, forcément, Gauthier Grumier. Et dans les dernières touches comme ça, ça peut jouer aussi, non?
Surtout en demi-finale, l'expérience, c'est... Ouais, c'est très important.
Il a plus d'expérience, il a une palette technique plus large également. 13-10 désormais pour Gauthier Grumier. Il reste 30 secondes dans cette deuxième des 3 périodes de 3 minutes de cette demi-finale.
À
2
points du match, quoi.
D'avance. À 2 touches du match, effectivement, tu suis bien, Virginie, c'est impressionnant. Et là, la 14e pour Gauthier Grumier, sur le masque de son adversaire, qui a cherché une attaque en bas. Gauthier Grumier l'a contré en haut. Ouais. Ça, j'ai bon là, Ulrich.
Ouais, c'est bon. Et puis, c'est bon aussi pour Gauthier, 14-10. Donc,
touche de match.
Non, voilà, c'est...
Ça sent bon,
on
ne
se lâche pas, on finit le travail et puis...
Allez, il reste 21 secondes dans cette deuxième période.
Hugo Bry est toujours aussi calme ?
Toujours, il est impassible. C'est très rare de le voir comme ça. Il a confiance en Gauthier Grumier, il a confiance en son tireur. 14 touches à 10 pour Gauthier Grumier. Alors est-ce qu'il va aller chercher la 15e avant la pause, ou est-ce qu'il va temporiser, Gauthier Grumier, 5 dernières secondes? Et je pense pas qu'il aille chercher la 15e touche maintenant. Si, il me fait mentir, mais il se fait contrer. 14 à 11 pour le Français. C'est une nouvelle fois une parade riposte de Jorgensen.
Ouais, il aspire et puis Gauthier part, parade riposte.
Donc là, ça veut dire qu'on entame quand même le troisième tiers-temps, quoi.
Ah oui, là, on va l'entamer parce qu'il restait 5 dixièmes de seconde. Donc effectivement, à l'épée, c'est très compliqué. Ouais. C'est possible de lancer une attaque, mais là, ça n'a pas été le cas. Et donc, Gauthier Grumier qui va aller boire et écouter Hugo Bry une dernière fois. 14 touches à 11. Il a 3 touches d'avance. dans ces moments-là, Ulrich, il faut pas non plus gamberger parce que tu l'as dit, Jorgensen, le Danois, il a remonté déjà des handicaps cette journée.
Exactement, il a déjà remonté des handicaps. Je pense qu'il est très content d'être là en demi-finale. Il a plus grand chose à perdre. Mais l'important, c'est que Gauthier continue de tirer. Ça veut dire qu'il faut pas qu'il regarde son adversaire, qu'il devienne trop passif.
Il est assis, ouais. Gauthier Grumier. Il écoute Hugo Bry, qui est toujours très calme également à ses côtés. Allez, encore
Rodolphe,
une touche et
le Français est en finale. On rappelle que juste dans 3 minutes, hein, on va retrouver Christophe Cessieux et toute la Dream Team Tour de France qui est à Cotteray. Mais pour l'instant, on va vivre la fin de cette demi-finale de Gauthier Grumier, demi-finale à l'épée championnat du monde d'escrime. Et ça se passe à Moscou. On est avec Rodolphe Massé, on est avec Ulrich Robéry.
Le champion du monde en titre qui va peut-être voir l'un de ses collègues lui succéder au palmarès parce que les Français, ils avaient fait le doublé l'année dernière, titre en individuel, titre par équipe aux mondiaux. Ils ont refait la même chose cette année à Montreux au championnat d'Europe, titre en individuel pour Gauthier Grumier et titre par équipe. Et cette troisième période de 3 minutes qui débute à l'instant même sur cette piste podium ici dans cette enceinte olympique de Moscou. 14 touches à 11, on le rappelle, pour Gauthier Grumier, 3 touches d'avance et il va faire travailler son adversaire ou pas. À la Gauthier, à ton avis, Ulrich?
Oh, il va pas se jeter. Hein. Il va vraiment prendre le temps de construire sa touche.
Une double, ça suffit. Hein. Une double touche, ça suffit. Voilà, non, mais pas. Exactement. C'est une touche simple pour Gauthier Grumier. 15 touches à 11. Il est en finale.
Il est en finale
mondiaux 2015.
Merci beaucoup à tous les deux. On vivra évidemment cette finale ensemble sur RMC. On va retrouver Christophe Cessieux dans un instant. Christophe Cessieux dans les Pyrénées avec toute la Dream Team. Christophe.
Et oui, la Dream Team rassemble au grand complet pour revenir sur cette 11e étape du Tour de France qui n'a rien donné en termes de classement général. On va y revenir évidemment. Les adversaires de Froome ont-ils abdiqué? Et puis on va aussi revenir sur la Bérézina française qui se poursuit puisque Pinot, Bardet et Perrault sont arrivés très loin. Aujourd'hui, les débats avec Cyril Guimard, Le Club Blanc et Thierry Bourguignon. Ce sera juste après les infos 19h. Et on n'oublie pas non plus la finale au championnat du monde d'escrime à Moscou qu'on suivra avec Rodolphe Massé. À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour.